Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'idolâtrie, un thème qui réapparaît tout au long de la Bible.
Nous y réfléchirons en compagnie de Jean-Marc et nous verrons à quel point ce thème, qui peut sembler à première vue démodé, est en fait très pertinent et d'actualité. Bonjour Jean-Marc et merci d'être de retour parmi nous.
Bonjour Yann et bonjour à tous. Aujourd'hui, alors que nous poursuivons nos discussions sur le thème de l'idolâtrie, je voudrais évoquer un problème que l'on peut rencontrer parmi ceux qui professent être chrétiens. En effet, certains, bien qu'ils affirment connaître l'Éternel, le Dieu unique et vrai, et semblent l'adorer, retombent trop facilement dans l'idolâtrie. Nous allons réfléchir sur ce problème à partir d'un incident relaté dans le livre de l'Exode, chapitre 32. Rappelons-le. Dieu venait alors de délivrer le peuple d'Israël de l'esclavage d'Égypte. Il s'était révélé à lui de façon extraordinaire afin de lui prouver sa puissance et son amour fidèle. De même, le Seigneur, par l'intermédiaire de Moïse, lui avait révélé les 10 commandements à travers lesquels tout acte d'idolâtrie est formellement interdit, car les 10 commandements affirment que l'Éternel seul est Dieu. Écoutez alors ce qui se passa seulement quelques jours après.
Quand le peuple s'aperçut que Moïse tardait à redescendre de la montagne, il se rassembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, fabrique-nous un dieu qui marche devant nous, car Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Aaron leur répondit « Détachez les pendants d'or des oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Aussitôt, tous se défirent des pendants d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Celui-ci les reçut de leurs mains, façonna l'or au burin et en coula la statue d'un veau. Alors le peuple s'écria « Voici ton Dieu Israël qui t'a fait sortir d'Égypte !» Voyant cela, Aaron construisit un autel devant le veau. Puis il annonça à haute voix « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel !» Le lendemain, de bon matin, le peuple se mit à offrir des holocaustes et des sacrifices de paix. Ensuite, il s'assit pour manger et boire, puis il se leva pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse « Va, redescends, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte se conduit très mal. Ils se sont bien vite détournés de la voie que je leur avais indiquée. Ils se sont fabriqués un veau de métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui et lui ont offert des sacrifices en disant « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. »
C'est quand même étonnant que ce peuple, qui a pourtant vu Dieu agir si puissamment, ait eu recours à l'idolâtrie. Comment expliquez-vous cela?
C'est vrai. Cela est difficile à comprendre, difficile aussi à expliquer, car le texte nous apporte peu d'indices, mais voici mon interprétation. Ce peuple vivait un temps de crise. Ces gens venaient d'être libérés d'une vie rude et éprouvante, ils venaient d'être délivrés de l'oppression des Égyptiens, et à présent, ils se trouvaient confrontés à une multitude d'interrogations, ils étaient plongés dans l'incertitude, juste au beau milieu d'un désert, d'un environnement extrêmement hostile et de surcroît. Leur leader, Moïse, avait disparu depuis quelques jours. Contraints à une telle situation, des doutes et des interrogations surgissaient dans leur esprit. Vers où allaient-ils? Que leur réservait l'avenir? Comment allaient-ils s'en sortir, se débrouiller? Ce peuple aurait dû cependant se tourner vers l'Éternel et lui soumettre ses soucis et ses interrogations. Après tout, ne leur avait-il pas prouvé à maintes reprises qu'il était digne de confiance? Et ce n'est pas ainsi qu'ils ont réagi, au contraire. Ils se sont tournés vers une idole créée de leurs propres mains. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est ainsi qu'ils avaient l'habitude d'agir. Ce peuple avait vécu en Égypte tant d'années qu'il s'était imprégné de ses croyances locales, qu'il y avait assimilé la pratique de l'idolâtrie tout en y ajoutant ses propres traditions. Et voilà que maintenant, en pleine crise, ces gens ont du mal à retenir les nouvelles leçons spirituelles. Leur tendance, leur réflexe, est de poursuivre ce qu'ils ont toujours eu l'habitude de pratiquer. Le peuple d'Israël avait besoin d'apprendre que leur ancienne façon d'agir était fausse, que dorénavant, ils devaient et pouvaient faire confiance à Dieu seul.
Et qu'en est-il de nos jours ?
Ces mêmes dangers existent aujourd'hui et sont désignés par le terme de syncrétisme.
Voilà un mot qu'il convient de définir.
Le syncrétisme décrit tout simplement toute tentative de combiner deux religions ou deux systèmes de croyances qui pourtant sont incompatibles. Ainsi, une personne peut affirmer avoir accepté la bonne nouvelle, croire en Jésus-Christ et désirer le suivre en tant que disciple, et malgré tout, continuer à croire en ses anciennes traditions et à les pratiquer, en ayant recours entre autres aux esprits ou à la magie, pour ne citer qu'un exemple. Et cette tendance se révèle en temps de crise. En effet, confronté à une difficulté grave, toute personne doit se décider et se demander « Vais-je faire confiance à Jésus-Christ ou bien vais-je m'appuyer sur les traditions dans lesquelles j'ai été bercé toute mon enfance ?»
Cet enseignement est fort pertinent pour les cultures où le monde des esprits est très présent et le recours à la sorcellerie normale. Mais qu'en est-il pour les autres cultures où cela n'est pas le cas ?
Nous avons déjà expliqué que l'idolâtrie peut se manifester par tout désir excessif nous dominant, comme les désirs sexuels immoraux ou bien la soif démesurée de toujours posséder plus. Imaginons une personne qui se sent seule et triste ou une autre qui est sous pression et stressée. Comment vont-elles résoudre leurs difficultés ? Où vont-elles rechercher la paix et le réconfort ? Un chrétien aura un choix à faire entre replonger dans ses anciennes habitudes ou trouver Dieu. Car peut-il construire son bonheur en ayant recours à des liaisons sexuelles interdites, ou en effectuant une multitude de dépenses inutiles, ou bien encore en s'adonnant à la drogue ou à l'alcool ? De telles conduites ressemblent à la réaction du peuple d'Israël qui, au lieu de marcher en nouveauté de vie avec Dieu, est retombé dans ses anciennes habitudes destructrices.
Que devons-nous faire alors pour ne pas rechuter et être sous l'emprise d'idoles ?
Nos réflexes et nos réactions idolâtres peuvent être très enracinés en nous, mais Dieu désire nous aider à nous en sortir. Tout d'abord, nous devons prendre conscience du problème et essayer d'identifier, avec l'aide de la Bible, les habitudes ou traditions, les conduites ou réflexes qui s'apparentent à l'idolâtrie et qui sont incompatibles avec la foi en Jésus-Christ. Ces tendances varient considérablement selon la culture dans laquelle nous vivons, et j'ajouterai d'ailleurs que toute tradition n'est pas forcément à rejeter, mais seulement celle qui revêt un caractère idolâtre. Par-dessus tout, le chrétien doit apprendre à faire confiance à Dieu, à puiser en lui sa joie, à trouver auprès de lui la paix intérieure et la sécurité. Nous devons développer de nouvelles habitudes, des réflexes nouveaux, ceux qui honorent Dieu. Nous devons être convaincus que Jésus nous aidera dans notre combat et dans notre désir de changer. Il n'est pas facile d'abandonner les habitudes destructrices qui furent les nôtres des années durant. Mais avec l'aide de l'Esprit de Dieu, nous pouvons vivre des victoires, nous pouvons produire dans nos vies de véritables fruits, ceux de la joie et de la paix.
Merci Jean-Marc pour vos enseignements clairs et instructifs. À présent, nous allons passer à notre courte méditation biblique.
Nous continuons notre série de méditations sur le fruit de l'Esprit, basée sur un verset bien connu, trouvé dans la lettre de Paul aux Galates. Chapitre 5, versets 22 et 23.
Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses.
À présent, notre invité Patrick va réfléchir une fois de plus sur la qualité de la douceur. Bonjour Patrick.
Bonjour Hélène et bonjour à tous. La dernière fois, nous avons souligné les dangers de la violence et de l'agressivité, tout en rappelant que Jésus nous enseigne à renoncer à de telles conduites. Il nous exhorte plutôt à adopter la douceur en suivant son exemple. D'ailleurs, la douceur est l'une de ces qualités qui constitue le fruit de l'esprit, l'une des qualités que l'esprit désire produire dans nos vies. Mais comment définir une conduite caractérisée par la douceur? Voici quelques exemples. Une personne douce n'impose sa volonté ni par la force, ni par des paroles hargneuses ou manipulatrices. Elle sait s'exprimer sans heurter la sensibilité des autres. Une personne douce sait penser les cœurs de ceux et celles qui ont une vie brisée. Elle sait relever, encourager, redonner force et courage, une raison d'être. Elle s'abstient de condamner, elle évite les paroles ou gestes qui pourraient plonger ceux qui souffrent plus profondément encore dans le désespoir. Une personne douce peut répondre aux personnes difficiles sans qu'un cercle vicieux de violence ne soit engendré, sans aggraver les conflits. Certains voudraient faire croire qu'être doux est synonyme de faiblesse. Une telle pensée est fausse. Et je voudrais à ce sujet citer la remarque d'un commentateur de renommée internationale, John Stott, qui suggère que la douceur doit être définie comme la force maîtrisée. Une personne douce sait dire non. Elle peut exprimer son désaccord, défendre ses idées et ses droits. Elle peut reprendre ou corriger, mais elle usera toujours de douceur. Car il est possible d'affirmer ses idées, ses désirs ou ses opinions sans tomber dans l'agressivité. Même dans l'opposition, nous pouvons nous défendre sans exprimer de colère, sans attiser de conflit. La douceur consiste à écarter toute action violente de nos vies. Pour y parvenir, nous devons faire appel à l'Esprit de Dieu, lui demander de nous aider dans notre démarche et le laisser agir en nous. La douceur n'est pas produite dans nos cœurs naturellement, mais nous pouvons faire des progrès dans la mesure où nous permettons à l'Esprit de nous guider et de nous façonner à l'image de Jésus-Christ.
Merci Patrick d'avoir si bien dépeint cette qualité de la douceur à laquelle nous devons tous aspirer.
La prochaine fois, Patrick abordera la dernière qualité énumérée qui constitue le fruit de l'esprit et qui est la maîtrise de soi.
En attendant de vous retrouver bientôt, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.